Chapitre 61. Entre ciel et Seine. 6h59, quai de Rouen. La Renault Kangoo frigorifique blanche se gara sur les quais presque déserts de Rouen, près du musée maritime. Maline vit brusquement la porte du camion frigorifique s'ouvrir et une arme se pointer sur elle. « Retournez-vous » Allait-il la battre ici, dans ce camion? La peur la paralysait. Maline n'arrivait pas à organiser ses pensées, trouver une solution pour essayer de s'en sortir. « Retournez-vous !» insista la voix. Maline se retourna vers le mur froid. Heureusement, le mode congélation à l'intérieur du véhicule n'était pas en route. Elle percevait la présence du tueur dans son dos. Qu'allait-il faire? Sa vie allait-elle s'arrêter là, dans ce fourgon, sur ces quais déserts? La sueur ruisselait dans son dos. « Donnez-moi vos poignets !» ordonna la voix. L'ordre soulagea Maline. Il ne voulait pas en finir tout de suite. Elle tendit ses mains et sentit une corde entailler sa chair. L'homme lia ses mains dans son dos. Il serra la corde à l'aide d'un nœud marin complexe. « Bien, avancez maintenant, doucement. Je reste derrière vous. On avance collé comme des amoureux. » Il se plaqua à elle et ils avancèrent de quelques mètres. Les quais étaient toujours déserts. Devant eux, l'impressionnante pile blanche du pont Gustave Flaubert, haute de plus de 80 mètres, les dominait. Maline remarqua que la circulation était coupée. Vraisemblablement, le double tablier du pont Levant allait bientôt se soulever pour laisser passer les trois mâts. Le passage des voiliers sous le tablier du plus grand pont Levant d'Europe, inauguré quelques semaines plus tôt, devait être la plus belle image de l'Armada 2008. Le tablier du pont se soulevait à l'horizontale, formant à son apogée, 55 mètres, le plus somptueux des arcs de triomphe à la gloire de la marine. Maline sentait le canon du revolver dans son dos. Vivrait-elle assez longtemps pour ce spectacle? Que voulait son agresseur? Qu'allait-il faire d'elle? « Reculez-vous un peu !» fit l'homme. Ils firent quelques pas en arrière et se dissimulèrent à l'angle du hangar le plus proche. L'homme approcha sa bouche de l'oreille de Maline. Le technicien du pont Flaubert va sortir de sa cabine. Il va s'assurer qu'il n'y a personne sur le pont. La circulation est coupée déjà depuis 30 minutes. Lorsqu'il aura terminé son inspection, il va retourner dans sa cabine et actionner le mécanisme de levage du tablier. Il s'écoulera un peu plus d'une minute entre le moment où le technicien tournera le dos au tablier et le moment où il commencera le levage. Au moment où je vous le dirai, vous avancerez avec moi. Pas de faux mouvements. Maline comprenait. La vue imprenable sur la parade, le vertige. Ce fou allait l'emmener sur le pont Flaubert, tout en haut. Pourquoi? Où voulait-il en venir? Quelques minutes plus tard, Maline vit un technicien avancer, contrôler que le pont était bien vide, puis retourner vers la cabine de commandement, au bas de la pile. « Maintenant !» fit l'homme. « Marchez vite !» Maline n'avait pas le choix. Au moins, la folle entreprise de ce criminel signifiait pour elle un sursis. Il aurait pu la battre depuis longtemps. Maline jeta un regard autour d'elle, mais les alentours restaient désespérément vides. L'accès au pont Flaubert avait été coupé, loin en aval. Ils franchirent la rambarde de béton de la route d'accès au pont et, à pas rapides, légèrement accroupis, gagnèrent le tablier. Ils marchaient à peine depuis quelques mètres au-dessus de la Seine lorsqu'elle sentit tout le poids de son agresseur sur elle. Il la plaqua au sol, la retenant à peine. Maline, les mains attachées dans le dos, ne put protéger sa chute. Elle eut simplement le réflexe de pivoter, et ce fut son épaule, et non son visage, qui heurta violemment le béton. L'homme se coucha sur elle dans l'instant qui suivit, provoquant une douleur intense. Il chuchota. « Pour être invisible, on doit rester allongé au moins jusqu'à ce que le tablier se lève de 20 mètres. Ensuite, avec l'angle, si nous ne nous penchons pas trop près du bord, nous devenons invisibles pour n'importe quel observateur sur la Seine ou sur les quais. » Il était fou. Elle sentait son corps sur elle, le canon froid du revolver sur son cou. Son épaule la faisait souffrir atrocement, mais elle était vivante. Pour combien de temps encore? Le tablier décolla. Les lourdes chaînes d'acier crissèrent. Elle savait que le levage total du double tablier de 2600 tonnes, pour atteindre sa hauteur maximale de 55 mètres, prenait 12 minutes. Malgré la peur intense, Maline ne pouvait s'empêcher de se sentir troublée par les sensations qu'elle éprouvait. Cet immense socle de béton s'élevant horizontalement vers le ciel comme un gigantesque ascenseur. Le vent qui progressivement gagnait en intensité et giflait son visage. Ce ciel qui se rapprochait. Elle tourna les yeux vers l'azur. Le câble d'acier, de plus de 6 cm de diamètre, s'enroulait autour du papillon de la pile, incroyablement proche maintenant, dégageant une force colossale. Maline commençait à comprendre. Il n'était pas si fou. Si quelqu'un s'apercevait de sa disparition, qui pouvait avoir l'idée de venir la chercher ici, sur le tablier levé du pont Flaubert? Le câble d'acier stoppa brusquement son lent effort, comme broyé dans une mâchoire gigantesque. Le tablier se stabilisa. Il dominait donc la scène de 55 mètres. L'homme se dégagea mais resta accroupi, pointant son arme sur elle. « On va se lever, doucement. Si vous approchez trop près du bord en espérant que quelqu'un puisse vous apercevoir, je vous abats !» Pour se lever, les mains liées dans le dos, Maline dut s'appuyer sur ses coudes. Une douleur insupportable déchira à nouveau son épaule. L'homme n'esquissa pas un effort pour l'aider. Le vent fouettait le visage de Maline, comme sur une falaise en bord de mer. Enfin, elle se tint debout. L'espace de quelques secondes, elle oublia qu'un criminel la menaçait et que, dans quelques minutes, il allait abandonner son cadavre sur cette stèle mortuaire céleste de 2600 tonnes. La vue de la scène, du haut du tablier levé, juste au-dessus de la cime des mâts, était prodigieuse. Elle offrait une parfaite symétrie entre les deux rives, les alignements de voiliers, l'agitation naissante sur les ponts des bateaux qui se préparaient au départ, les voiles que l'on commençait à hisser, comme un extraordinaire film aux milliers de figurants. Le panorama embrassait, au-delà des quais, toute la ville de Rouen et son animation convergeant vers le fleuve. Son agresseur afficha un sourire sadique. La plus belle vue de l'Armada, non? Au plus beau moment. Comme toujours, mademoiselle Abruzzese, vous êtes là où il faut, quand il le faut. Je vous envie, mademoiselle Abruzzese. Peu de personnes au monde auront eu un aussi beau spectacle devant leurs yeux avant qu'il ne se fermât jamais. Maline se retourna, agressive. Qu'allez-vous faire de moi? Vous ne m'avez pas laissé le choix depuis ce matin. J'ai longtemps hésité. Pas sur le fait de vous laisser la vie, je ne veux pas vous donner d'illusions, mais sur la manière de vous l'ôter. Au départ, j'avais l'idée de vous forcer à plonger. J'aimais beaucoup le symbole. 55 mètres, pas grand monde n'en échapperait. Le record du monde de plongeon est de 54 mètres. Mais vous avez une étonnante faculté de survie, Maline. Et surtout, quelqu'un sur les quais ou sur un trois-mâts aurait pu remarquer votre chute. Je me serais retrouvé piégé en haut de ce tablier. Je vais donc être obligé d'utiliser une méthode plus banale, mais qui a fait ses preuves ces derniers temps. Vous le reconnaîtrez. Il écarta un peu le pan de sa chemise. Un poignard était accroché à sa ceinture. Maline sentit son sang se glacer. Elle n'imaginait pas perdre la vie dans quelques secondes, sentir cette lame s'enfoncer dans son cœur. Pourtant, elle n'arrivait pas à détacher son regard de ce poignard. Cet homme était fou, déterminé. Qui pourrait venir la secourir ici? Personne. Personne ne pouvait être au courant. Elle sentait à nouveau des larmes monter en elle. Avec effort, elle se domina. Tenir, il fallait qu'elle tienne encore, jusqu'au bout. Et une fois que vous aurez abandonné mon corps ici, comment ferez-vous? L'ironie illumina une nouvelle fois le visage du tueur. Je pourrais vous répondre qu'à ce moment-là, cela ne vous regardera plus, mais je pense tout simplement bénéficier toute la matinée de ce fabuleux spectacle du passage des voiliers sous le tablier, puis redescendre aussi discrètement que nous sommes montés. Vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas bien difficile. J'avoue que je lirai les journaux de demain avec délectation. L'incroyable mystère de la femme retrouvée poignardée au milieu du tablier levé, à 55 mètres de haut. Tuée par un ange ? Casse-tête encore plus intéressant pour la police que le double meurtre de la Chapelle Bleue, non ? Maline essayait de rassembler ses pensées. L'homme n'éprouverait aucune hésitation. Par contre, il n'était pas pressé, c'était son seul atout. Il fallait donc qu'elle gagne du temps. coûte que coûte, pour entretenir l'espoir. Elle fit mine de s'avancer un peu. Immédiatement, le revolver se braqua sur elle. « Restez sur place !»«
Si vous tirez, le bruit de la détonation vous fera repérer. »«
Peut-être, peut-être pas. Vous serez morte, vous n'en saurez jamais rien. »
Maline n'avança pas plus, mais évalua le temps qu'il lui faudrait pour courir sur 2 mètres et sauter par-dessus la balustrade du tablier. Quelques secondes. Il n'aurait peut-être pas le temps de tirer.
Mais elle se destinait alors à une mort tout aussi certaine. Un plongeon de 55 mètres, les mains attachées dans le dos. À cette hauteur, la surface de l'eau aurait la compacité d'un bloc de béton.
Et si c'était sa seule chance? Réfléchir, gagner du temps.
« Avant de mourir, » demanda Maline, « j'aimerais savoir quelle folie peut pousser quelqu'un à poignarder sauvagement 3 matelots innocents. »
« Ah !» fit l'homme. « La journaliste reprend le dessus. Ne pas mourir sans savoir. Je vais vous faire une faveur. Je vais vous raconter une histoire, mademoiselle Abruzzese. Nous avons le temps, non? Asseyez-vous. »
Maline, à contre-cœur, dut s'asseoir. L'homme la tenait en joue.
« Il y a longtemps, maintenant, près de 25 ans, j'étais comme ces jeunes matelots, prétentieux, cupides, passionnés par la recherche d'un butin qui devait faire ma richesse infinie, piller une fortune qui m'attendait au fond de l'eau. Je n'avais que faire de ces histoires de malédiction, de dignité, de respect d'un butin accumulé pendant des siècles. Je me suis approché du trésor jusqu'à le toucher, presque. Ma fille était à mes côtés. J'entraînais mes proches dans mon inconscience. Lorsque je suis remonté à la surface, ma femme n'était plus à mes côtés. Elle baignait dans le sang, morte, quelques mètres plus loin.
« Comment cela ?» fit Maline stupéfaite.
« Ces connards de flics ont conclu à un accident de chasse dont le coupable n'a jamais été retrouvé. La fatalité, selon eux. La fatalité. J'y ai pensé pendant des années. Qu'est-ce qui différencie la fatalité, la destinée, de la malédiction, du mauvais sort ? J'étais responsable de la mort de Muriel. J'avais attiré la fatalité sur elle. J'étais prévenu, pourtant. La punition frappait ceux qui s'approchaient du butin sans le cœur pur, pour vouloir le piller,
pas pour l'enrichir, le protéger. J'étais prévenu. J'étais sourd.
Muriel est morte. Il a fallu qu'elle meure pour que je comprenne, pour que l'on comprenne, Marine et moi. »
Maline repensa aux paroles de Joe Roblin. À l'être Saint-Maclou, la schizophrénie de l'assassin.
On est un peu dans le cas d'un soupirant timide qui désire une femme sans oser la toucher, mais qui néanmoins cultive un sentiment de jalousie obsessionnelle envers tous les autres soupirants.
Depuis la mort accidentelle de sa femme à l'occasion d'une expédition, il n'osait plus s'approcher de ce butin, ni même le désirer. Mais l'idée que quelqu'un d'autre puisse le découvrir, s'en approcher même, sans périr, lui était devenu insupportable. Il avait perdu la raison. Maline tenta de le pousser dans ses retranchements.
« Alors c'est seulement pour cela que vous avez tué ces 3 matelots,
et indirectement aussi Morten Nordrak, parce que vous ne supportiez pas qu'il puisse trouver le butin avant vous ?»
Contrairement à ce que Maline espérait, l'homme ne s'énerva pas.
« Vous ne pouvez pas comprendre, mademoiselle Abruzzese. Personne ne peut comprendre. » Moi-même, il a fallu que ma femme soit sacrifiée pour que je comprenne. À vos yeux, je resterai un criminel qui tue parce qu'il ne veut pas partager une richesse colossale, la conserver pour lui seul. Vous ne pouvez pas comprendre autre chose que la cupidité. Personne ne le peut. L'or n'a rien à voir là-dedans, la fortune non plus. »
Maline repensait encore à la métaphore de Roblin. Il avait vu juste. Cet homme souffrait de pulsions refoulées, refusant d'admettre qu'il désirait ce butin, tuant par substitution, comme un sadique commet des crimes sexuels parce qu'il refoule son désir pour une femme. Elle essayait de réfléchir, prolonger la conversation, prolonger l'espoir. Soudain, dans le silence de leur nid d'aigle, la sonnerie de son téléphone portable résonna dans sa poche. L'espoir ? On s'était rendu compte de sa disparition. Olivier avait donné l'alerte, on la recherchait. Maline ne pouvait pas répondre, les mains attachées dans le dos. Son agresseur laissa sonner. Lorsqu'il entendit le son du message que l'on laisse sur le répondeur, il glissa sans hésitation une main dans la poche de pantalon de Maline et sortit le téléphone. Qui la recherchait ? Olivier ?
Christian de Culteau, le commissaire Paturel ?
L'homme afficha un sourire sadique.
Devinez qui vous appelle, mademoiselle Abruzzi. Non, vous ne devinerez pas.
Le sourire se fit plus démoniaque encore.
C'est votre père. Il vous signale que vos cousins bourguignons sont partis, un peu fâchés de ne pas vous avoir vu. Maintenant, au moins, vous aurez une bonne excuse pour ne jamais les revoir. Par contre, votre père vous rappelle votre promesse. Vous devez passer le chercher à Oissel ce matin pour l'emmener voir la parade de la Seine.
Ce n'est pas très raisonnable, ça, mademoiselle Abruzzi. Faire des promesses que vous n'allez pas pouvoir tenir. Ce n'est pas gentil pour votre vieux père.
Allez, ne vous en faites pas trop, il ne vous en voudra pas longtemps. Je suis sûr que lorsqu'il apprendra que l'on a retrouvé votre joli corps poignardé le matin de la parade, il comprendra.
Fermer les yeux, courir, plonger. Mais le vent la clouait au sol. Elle était comme paralysée, incapable du moindre geste.